Conférence, si vous voulez bien. Donc nous ouvrons ce soir avec le professeur Hugues Dossy ce cycle de conférences consacrées ici à la librairie Jean Calvin, par la librairie Jean Calvin, à la médiathèque, puisque la plupart de ces conférences auront lieu ici à la médiathèque d'Alès, dans cet amphithéâtre. Nous ouvrons notre cycle de cette année, 2016, les protestants à l'épreuve du pouvoir. Pourquoi avoir choisi ce thème? Tout simplement parce que la question du pouvoir, c'est une évidence, se pose pour toute société humaine, qu'on aurait pu penser que peut-être que dans le cadre religieux, les religieux auraient échappé à cette question. Or, il n'en a rien été, évidemment, on le sait depuis le début. Et on aurait pu aussi penser que les protestants, revenant aux racines bibliques, aux racines évangéliques, eh bien, auraient aussi réussi à mieux maîtriser la question du pouvoir. Or, il se trouve que cette question qui va se poser de manière cruciale aux protestants, à la fois dans leur rapport avec le monde extérieur, puisque les protestants, très tôt, sont confrontés à cette question du pouvoir, et notamment face au pouvoir royal, et on va en parler ce soir, mais la question du pouvoir va se poser aussi, je ne sais pas ce que c'est ce bruit, ce sifflement, en tout cas, ce n'est pas volontaire, je vous le promets, j'espère qu'il va disparaître, voilà, là, on ne m'entend plus. En tout cas, cette question du pouvoir, elle s'est posée à l'extérieur, mais elle se pose aussi à l'intérieur du parti protestant et du monde protestant. Comment les protestants vont réussir, et ce sera l'objet d'une autre conférence, à gérer le pouvoir en leur sein, notamment au travers de leurs institutions, des synodes, des colloques ou des pasteurs. Comment ces organes de pouvoir vont être amenés à exercer leur pouvoir sur le peuple protestant, ou comment, au contraire, ils vont être contestés par ce peuple. Et puis aussi la question, au XIXe siècle, par exemple, de la montée en puissance des associations qui deviennent aussi des organes de contrôle, des organes d'influence, des organes de pouvoir, en quelque sorte, dans les sociétés. On verra ça avec Rémi Fabre, qui viendra nous parler de Francis de Pressensé et de la fondation de la Ligue des droits de l'homme, qui continue aujourd'hui à exercer une influence considérable dans notre société. Et puis on parlera aussi, au XXe siècle, de la disparition peut-être du pouvoir des partis protestants et de l'émergence d'une autre forme de pouvoir, le pouvoir intellectuel, avec la grande figure de Roland Barthes. Et ce sera un des grands spécialistes de l'histoire intellectuelle française qui viendra nous en parler, c'est François Dosse. Alors, je suis très heureux ce soir d'accueillir le professeur Hugues Dossy, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Et le professeur Hugues Dossy, qui est professeur d'histoire moderne à l'Université de Besançon, vient de consacrer un ouvrage qui vient d'être publié dans la collection Titres courants, Le Parti Huguenot aux éditions Drault, que vous pourrez venir consulter ici, et pour les plus passionnés, acheter. Le Parti Huguenot, donc, chez Drault, vient nous parler ce soir de cette montée en puissance, de cette construction du Parti Huguenot dans la France du XVIe siècle. Nous sommes ici dans la seconde moitié du XVIe siècle, et comment ce Parti Huguenot tente de prendre le pouvoir, ou est-ce qu'il se construit en partie, justement, pour tenter de survivre au milieu d'une France qui lui est hostile. Donc, Hugues Dossy va aborder cette thématique pendant environ 45 minutes, et puis après, on pourra réagir, poser des questions, faire des remarques pendant 15 à 20 minutes autour de cette question du parti Huguenot dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc, je vous laisse tout de suite la parole.
Merci beaucoup. Donc, je vais d'abord remercier Franck Belloir pour son très aimable invitation, que j'ai acceptée avec grand plaisir. Et donc, je vais essayer de répondre à cette interrogation qui est posée dans le titre de la conférence. Est-ce que le Parti Huguenot a été un instrument de victoire pour les protestants, a été conçu comme un instrument de victoire, ou est-ce que finalement il s'est avéré simplement un moyen de survie? Alors, pour ceci, je vais évoquer un petit peu... le livre que Franck Belloir vient de vous présenter, je n'évoquerai bien sûr que quelques aspects qui seront étroitement ciblés sur cette problématique. Pourquoi est-ce que j'ai écrit ce livre? Tout d'abord parce qu'il s'inscrivait dans la continuité de mes recherches antérieures. Lorsque j'ai travaillé pour ma thèse, j'ai étudié la pensée et l'action politique de Philippe Duplessis-Mornay. Philippe Duplessis-Mornay, c'était le principal conseiller d'Henri de Navarre avant qu'il ne devienne Henri IV. Et en travaillant sur ce personnage, j'ai, par voie de conséquence, travaillé sur le parti Huguenot mais dans une phase ultérieure de son histoire, c'est-à-dire après la Saint-Barthélemy. Et il m'a semblé intéressant de remonter aux origines de ce parti huguenot. Quand on parle de parti huguenot, on entend bien évidemment l'organisation politique et militaire mise en place par les réformés français en France dans la seconde moitié du XVIe siècle. Donc c'est la première des raisons qui m'a conduit à me pencher sur cette période initiale de l'histoire du parti huguenot. Et puis en travaillant sur les sources, en consultant des documents, je me suis aperçu qu'il y avait tout un pan de l'imaginaire huguenot qui avait été relativement négligé par les historiens. Et notamment, il s'avère que l'on avait presque toujours pensé que l'histoire du protestantisme français, l'histoire de la réforme française au XVIe siècle, s'était réduite d'emblée à l'histoire d'une résistance, c'est-à-dire à une volonté de survivre dans un royaume majoritairement catholique, à une volonté finalement de n'obtenir que la coexistence. Or, en lisant ces sources, je me suis aperçu que loin d'avoir été résigné à la coexistence, les réformés français de cette première moitié du XVIe siècle, à tout le moins aux charnières des décennies 1550-1560, avaient réellement eu l'ambition de convertir le royaume de France. Et ils ont donc pensé, dans ces premiers temps de leur apparition au grand jour, non pas résister seulement, mais remporter la victoire. Et il se trouve que le parti huguenot a été conçu à la base comme l'instrument qui devait être susceptible de leur apporter cette victoire. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de procéder en trois temps. Je vais essayer de déterminer avec vous, de voir avec vous, si ce parti huguenot a atteint son objectif, c'est-à-dire si, effectivement, il a permis ou s'il était susceptible de permettre aux réformés français de remporter la victoire. J'évoquerai d'abord le processus de politisation qui a abouti à la constitution de ce parti huguenot en France avec pour objectif la victoire. Je verrai ensuite quels ont été les moyens qui lui ont été donnés ou dont il a pu disposer pour essayer de remplir cet objectif. Et enfin, nous verrons quels ont été les résultats. Est-ce qu'il a rempli sa mission ou pas ? Et tout d'abord, donc, je vais évoquer ce processus de politisation. Je vais partir du milieu du XVIe siècle, vers l'année 1555. C'est à cette époque que Calvin, depuis Genève, considère que la clandestinité des églises réformées, des communautés réformées en France, a assez duré et qu'il faut apparaître au grand jour. Apparaître au grand jour, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire passer de communautés clandestines inorganisées à ce qu'on appelle des églises dressées. Une église dressée, c'est une communauté réformée qui est pourvue d'un pasteur, d'un lieu de culte, et dans laquelle on prêche régulièrement le dimanche et où on administre les sacrements. Et puis il faut aussi qu'un consistoire soit mis en place pour que cette église soit pleinement dressée. Ce processus de sortie de la clandestinité il s'étale sur quelques années. En 1555, ce sont les premières églises dressées qui apparaissent au grand jour. Et puis petit à petit, et ce jusqu'en 1562, peu à peu, des églises de plus en plus nombreuses constituées, sont structurées. Cette apparition au grand jour des églises réformées donne l'illusion, bien évidemment, d'un mouvement inexorable de conquête. Alors qu'on était clandestin, tout d'un coup, on apparaît au grand jour et on lit dans la correspondance de Calvin et dans celle d'autres réformés, notamment des pasteurs, l'espoir qui les habite de voir cette apparition au grand jour comme une première étape d'une conquête plus vaste à l'échelle du royaume. Et donc, pendant quelque temps, on imagine que, en apparaissant au grand jour, ces églises vont entraîner un mouvement de conversion presque spontané du royaume de France. On pense que l'évidence de la vérité de l'Évangile va apparaître à tous et que la lumière de l'Évangile va éblouir les âmes qui erraient jusqu'à présent dans le catholicisme. Alors bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Et au contraire, en voyant apparaître ces églises réformées au grand jour, que font les autorités ? Eh bien, elles intensifient la répression. Alors face à cette situation, Calvin ne perd pas espoir. Il voit bien que la vérité de l'Évangile ne s'imposera pas d'elle-même, mais il se dit qu'il va falloir l'aider un peu. Dieu ne va pas suffire. il ne va pas pouvoir se débrouiller tout seul, il va falloir lui donner des auxiliaires. Et cette aide que l'on peut apporter à la progression de la religion réformée dans le royaume, c'est une aide politique. Il va falloir politiser le mouvement réformé. Pourquoi cette politisation doit-elle permettre la progression de la réforme en France ? Tout simplement parce que politiser la réforme, c'est lui donner une voix politique, c'est lui permettre, au sein des sphères les plus élevées de la société française, et notamment dans l'entourage même du roi, à la cour, c'est un moyen de s'exprimer et donc de toucher ceux qui sont les plus influents. Mais pour y parvenir, il faut des relais, et donc il faut donc convertir des membres de la noblesse. Et le choix qui est fait par Calvin est d'envoyer en France des pasteurs missionnaires qu'il a formés à Genève en direction des personnages les plus éminents de la noblesse française pour essayer de les persuader de passer à la réforme. Ces pasteurs qui sont envoyés sont eux-mêmes nobles. Ce sont des nobles français qui se sont réfugiés à Genève au fil du temps, dans les décennies 1540 et 1550, et qui ont été formés par Calvin. Pourquoi envoyer des nobles ? Parce que, bien évidemment, un noble a plus de chances d'être entendu par un autre noble. Dans la société du XVIe siècle, c'est une évidence. Et ces pasteurs sont envoyés vers des cibles qui ont été prédéterminées par Calvin en fonction de ce que l'on peut espérer de leur sensibilité à la réforme. La cible la plus éminente qui est visée par Calvin, c'est le prince de Condé. Le prince Louis de Condé, qui est un prince du sang, c'est-à-dire qu'il est membre de la famille royale, puisqu'il est l'un des principaux personnages de la lignée des Bourbons. C'est un cousin du roi, certes au 21e degré, mais tout de même un cousin du roi. Si la dynastie des Valois venait à s'éteindre, c'est celle des Bourbons qui régnerait. Donc c'est un personnage tout à fait éminent. Et on pense qu'il a pu passer par Genève en 1555, qu'il a pu rencontrer Calvin, même si on n'a pas de certitude à ce sujet. On sait qu'il est sensible aux idées nouvelles. Et donc on envoie auprès de lui des émissaires chargés d'essayer de le convertir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais progressivement, Condé se laisse fléchir et il finit par adhérer à la réforme, à une époque qu'on ne peut pas fixer de manière précise, mais on pense qu'en 1558-1559, ça y est, la conversion est effective. Donc, un prince du sang, figure de proue de cette politisation huguenote. On vise également des personnages moins éminents, mais qui ont tout de même une importance tout à fait décisive dans la noblesse française, on vise les membres de la lignée des Châtillons. Alors les Châtillons, ce sont les neveux du connétable de Montmorency. Montmorency, lui, est un catholique intransigeant. D'ailleurs, il luttera plus tard de manière très déterminée contre les protestants français. Mais ses neveux, eux, ont été élevés par la sœur donc de Montmorency, Louise de Montmorency. Et Louise de Montmorency, elle a été très tôt sensible aux idées évangéliques. Bon, on ne peut pas dire qu'elle ait véritablement été protestante. Mais c'est ce qu'on appelle une évangélique. Elle est plutôt dans la lignée d'une pensée érasmienne. Et elle a fait élever ses enfants, trois frères, par un précepteur qui s'appelle Nicolas Béraud, qui, lui, était un disciple d'Érasme. Et donc, ils ont une certaine ouverture qui fait qu'ils sont des cibles potentielles pour les pasteurs venus de Genève. La première de ces cibles, c'est François de Coligny, seigneur d'Andelot. François d'Andelot est un personnage important, il est colonel général de l'infanterie française, et on sait qu'il est converti le premier parmi les frères Châtillon. En 1558, sa conversion est pleinement achevée, et elle est publique. Donc il fait profession publiquement de la religion réformée. Le deuxième frère Châtillon qui est converti est cette fois-ci Gaspard de Coligny, amiral de France, que tout le monde connaît, qui lui se convertit quelques mois plus tard, sans doute sous l'influence de son frère. Donc on a ici deux personnages très importants, ils sont des grands officiers de la couronne, ils sont des proches du roi, proches de la reine-mère, qui donc sont tout à fait aptes à faire parvenir la parole auprès du roi et de la cour. Et puis à côté de ces personnages très éminents, il y a d'autres nobles, moins importants, mais qui se convertissent à la fin de la décennie 1550, par exemple François de La Rochefoucauld, qui est le plus puissant seigneur du Poitou et qui se convertit également. La particularité de La Rochefoucauld et de Condé, c'est qu'ils ont épousé deux sœurs, Éléonore et Charlotte de Roye. Et on sait que au sein de la noblesse, le rôle des femmes dans la conversion a joué un grand rôle, et ce sont ces deux épouses qui ont joué un grand rôle dans la conversion de leur mari. Bref, une tentative depuis Genève qui remporte certains succès, et on a donc une conversion relativement importante des membres du deuxième ordre de la société. Alors, il y a aussi des échecs, par exemple, Antoine de Bourbon, qui est le premier prince du sang, et le frère de Louis de Condé, lui, ne se convertit pas, il restera catholique. Donc, les tentatives menées par Genève ne sont pas toujours couronnées de succès. Mais enfin, à la toute fin des années 1550, se forme ainsi un groupe de nobles puissants qui sont susceptibles de porter la parole à la cour. Comment cette promotion peut-elle s'accomplir ? Eh bien, tout simplement par la présentation de requêtes. Ce que ces nobles vont faire, c'est servir de porte-parole à la minorité réformée auprès du roi. Le premier à présenter des requêtes, c'est Coligny. Coligny, dès 1560, n'hésite pas, en plein conseil du roi, à présenter une requête au nom des réformés de Picardie et de Normandie. Alors bien évidemment, ça fait scandale, parce que pour la première fois, un grand officier de la couronne, en plein conseil du roi, s'exprime au nom de la minorité réformée. Il est très bien en cours, il est dans la faveur de Catherine de Médicis. Bon, il n'y a pas de conséquences pour lui, mais toujours est-il que pour la première fois, un personnage éminent se fait le porte-parole d'une minorité qui est condamnée à cette époque par les édits royaux. La deuxième tentative qui vise à présenter des requêtes au roi par ces nobles convertis, elle est beaucoup plus importante, beaucoup plus vaste. Elle a lieu l'année d'après, en 1561, entre mai et octobre 1561. Il y a une députation réformée qui est envoyée à la cour cette fois-ci. Ce sont des députés qui sont élus dans les différentes provinces du royaume. Ils sont élus non pas par des institutions politiques qui n'existent pas, mais par les synodes provinciaux, qui eux existent déjà, puisque le système ecclésiastique réformé a été créé en 1559. Et au sein de ces synodes, on décide de désigner des personnages éminents de la noblesse locale dans chacune de ces provinces, et ils sont envoyés à la cour pour former une députation auprès du roi, avec l'autorisation du roi. Donc le roi, qui en 1561 est Charles IX, autorise ces nobles réformés à venir à la cour et à lui présenter des requêtes. Il y a une douzaine de députés environ qui vont séjourner pendant plusieurs mois auprès du roi. Il présente quatre requêtes successives. Ces requêtes, que réclament-elles ? Ne réclament pas la conversion du royaume, bien évidemment, ce serait terriblement présomptueux et imprudent. Elles réclament simplement qu'on autorise les réformés à pratiquer leur culte dans le royaume de France. Le problème, c'est que, aussi bien la requête présentée par Coligny en 1560 que les requêtes présentées par les députés réformés en 1561 sont des requêtes qui n'aboutissent pas. La cour fait la sourde oreille, le roi fait la sourde oreille. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à la cour, il n'y a pas que des protestants, ils sont très minoritaires, il y a toute une majorité catholique, parmi lesquels sont des catholiques très intransigeants, comme par exemple le duc de Guise, le cardinal de Lorraine, le connétable de Montmorency et même Antoine de Bourbon, des catholiques qui font pression sur le roi pour que ces requêtes n'aboutissent pas. C'est donc une sorte d'échec. Alors, autre moyen de pression qui est moins officiel, c'est une sorte de lobbying, cette fois-ci plus officieux, qui s'installe à la cour. Cette année 1561, elle est très particulière pour les réformés français à la cour parce que, pour la première fois, ils y sont bien accueillis, les grands personnages de la noblesse réformée peuvent prêcher toutes portes ouvertes à la cour, y faire prêcher leur pasteur, sans que le roi ne sévisse, ce qui d'ailleurs suscite la colère et la fureur des catholiques intransigeants. Et donc, cette espèce de faveur qui leur est faite les laisse espérer que peut-être que le roi et la reine-mère pourraient envisager de manière favorable une conversion peut-être personnelle à la réforme. Et donc il y a tout un élan d'espoir qui s'exprime à ce moment-là, et cela permet aux réformés de redoubler d'efforts pour essayer justement de convaincre le roi et son entourage de prêter une oreille bienveillante à l'égard de la religion réformée. Et à cette époque-là, Théodore de Bèze, pardon, est lui-même présent à la cour de France, puisqu'il est venu pour assister et participer à un événement très important, qui est le colloque de Poissy. Alors ce colloque de Poissy, c'est une tentative qui a été conduite par Catherine de Médicis, qui ne voulait pas d'une guerre civile en France, et qui voulait essayer d'éviter que l'opposition entre catholiques et réformés ne se termine dans le sang. Et donc elle avait eu l'idée d'organiser un colloque. Qu'est-ce qu'un colloque vu sous cet angle? C'est une rencontre entre théologiens catholiques et pasteurs réformés. Cette rencontre elle a lieu à Poissy au mois d'octobre 1561. Elle est un échec total, hein, puisque très rapidement, les divergences doctrinales semblent irréconciliables et il est totalement impossible de trouver un moyen terme. Mais à cause de ce colloque, de nombreux pasteurs sont venus à la cour et y séjournent durablement. Et donc forcément, cela permet à ce groupe de réformés influents plus nombreux que jamais d'essayer d'emporter la décision. Alors, il n'emporte pas vraiment la décision, puisque le colloque de Poissy est un échec, mais néanmoins, il y a quand même un résultat à ce lobbying intensif qui a été pratiqué par les réformés français à la cour, c'est que Catherine de Médicis pousse son fils Charles IX à accorder aux protestants un édit au début de l'année 1562, c'est ce qu'on appelle l'édit de janvier. Cet édit de janvier, c'est une loi royale qui instaure la coexistence pacifique dans le royaume de France entre catholiques et réformés, avec bien évidemment toute une série de restrictions qui délimitent clairement les conditions dans lesquelles les réformés ont le droit de pratiquer leur culte, mais ils ont la totale liberté de conscience. C'est une victoire, bien sûr, pour les réformés français, et c'est l'aboutissement, en quelque sorte, du processus de politisation qui avait été voulu par Calvin. On aurait pu en rester là, mais il se trouve que les catholiques intransigeants qui sont présents à la cour sont extrêmement mécontents de cette concession qui a été faite aux réformés français. Eux, ils veulent l'extermination de l'hérésie. Ils ne peuvent se satisfaire de cet édit qui autorise le culte réformé en France, même s'il est limité. Et quelques semaines après la publication de l'édit de janvier, se produit le fameux massacre de Vassy, que l'on considère d'ordinaire comme le début des guerres de religion. Et cette fois-ci, on entre dans le conflit armé, un conflit armé qui va durer 36 ans, de 1562 à l'édit de Nantes, en 1598. À cette action politique, à cette politisation de la réforme française, va donc alors devoir s'ajouter une dimension militaire, puisque il ne s'agit plus seulement de combattre sur le plan politique, mais il va falloir aussi résister militairement à l'armée royale catholique. Et donc, il faut voir quels vont être les moyens qui vont être accordés à ce parti huguenot en gestation, de quels moyens va-t-il pouvoir disposer pour essayer non seulement de résister, mais aussi de faire avancer la cause réformée. Car ce n'est pas parce que les affaires prennent un tour militaire que les réformés français abandonnent pour autant leur espoir de victoire. Il ne faut pas croire qu'ils s'estiment résignés à ce moment-là. Non, ils pensent qu'ils n'ont pas pu convaincre le roi pacifiquement de passer à la réforme, ils n'ont pas pu convertir pacifiquement le royaume de France, mais peut-être que, militairement, ils réussiront à faire fléchir le roi en montrant leur puissance. Pendant les trois premières guerres de religion, qui est l'espace chronologique qui m'intéresse ici, hein, trois premières guerres qui se déroulent d'abord pour la première de 1562 à 1563, pour la deuxième de 1567 à 1568 et enfin pour la troisième entre 1568 et 1570. Donc pendant ces trois premières guerres, les réformés français résistent et luttent grâce à ce parti huguenot qui se structure de manière toujours plus performante au fil du temps. Quels sont ces moyens? Ces moyens, ce sont d'abord les conversions massives de la noblesse au protestantisme. Ce qui fonde la force du parti huguenot, c'est donc avant tout la grande puissance de la noblesse réformée. Bien sûr, il y a les personnages que j'ai évoqués tout à l'heure, le prince de Condé, puis, après la disparition de celui-ci, son fils, Henri de Condé, hein, donc d'abord Louis Ier de Condé, puis son fils Henri Ier de Condé. Vous savez qu'il y a eu quatre princes de Condé au XVIe et XVIIe siècle. Les deux premiers ont été calvinistes et les deux suivants ont été catholiques. Il y a également le jeune prince de Navarre qui entre en scène. C'est Henri de Navarre, le futur Henri IV, qui lui entre en scène lors de la Troisième Guerre de Religion. Ces trois princes, les deux Condé et Henri Navarre, sont tous les trois des princes du sang. Et donc, bien évidemment, ils donnent un prestige considérable à la noblesse réformée et une puissance considérable à cette noblesse réformée. Il y a aussi ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, Coligny, Andelot, puis plus tard, au cours des trois premières guerres, leur troisième frère, qui est cardinal, lui, le cardinal de Châtillon, finira également par basculer du côté réformé, même s'il restera toujours cardinal, c'est un petit peu compliqué. Il avait adopté une posture qui faisait qu'il ne perdait pas ses bénéfices, parce qu'il ne voulait pas les perdre, et en même temps, il faisait profession plus ou moins claire de la religion réformée. Enfin, dans les faits, il est clairement engagé aux côtés du parti huguenot à partir de la Troisième Guerre. Et puis, il y a bien d'autres nobles qui se convertissent dans différentes provinces du royaume. Alors, bien évidemment, il y a des provinces qui sont plus puissamment dotées en nobles protestants. Le Languedoc, en premier lieu, qui est l'un des cœurs de la résistance huguenote. Le Dauphiné, la Guyenne. Et puis, des provinces du Nord aussi, dont on a parfois oublié aujourd'hui qu'elles ont été très fortement touchées par la Réforme, comme la Normandie ou la Picardie. Pourquoi la Picardie ? Parce que le prince de Condé était gouverneur de Picardie. Et donc, forcément, il avait entraîné dans son sillage un certain nombre de ses dépendants. Mais aussi une région plus centrale, comme le Poitou, l'Aunis, la Saintonge, l'Angoumois. Bref, il y a toute une série de provinces au sein desquelles la noblesse réformée est particulièrement puissante. Cette puissance nobiliaire, elle permet la mobilisation militaire. Comment mobilise-t-on des troupes à cette époque-là ? Eh bien, ces nobles ont tous des régiments qui leur ont souvent été confiés par le roi lui-même. On appelle ça des compagnies de gendarmerie. Les hommes d'armes qui peuplent ces compagnies de gendarmerie ont été choisis par eux. Et donc, forcément, ils les ont suivis bien souvent dans leur conversion. Donc, il y a cette puissance-là. Et puis, il y a toutes les troupes que cette noblesse est capable de mobiliser sur ses terres. Cela permet à la minorité réformée d'aligner une armée qui, sur le plan numérique, n'est presque pas inférieure à l'armée royale. Il faut imaginer que pendant la Troisième Guerre de Religion, alors que l'armée royale est forte d'environ 30 000 hommes, et elle ne peut guère dépasser ce nombre de 30 000 hommes pour des raisons financières, l'armée huguenote, à son apogée, compte 38 000 hommes, donc elle est supérieure en nombre. Alors évidemment, il y a une grande différence entre les deux, c'est que l'armée royale est très bien équipée, sont des soldats aguerris et bien équipés, alors que les Huguenots, à côté, sont des soldats moins aguerris et parfois très mal équipés. Et ça fait une certaine différence. Mais du point de vue numérique, de la capacité de mobilisation, ce parti Huguenot qui constamment améliore son organisation est véritablement capable de mobiliser une armée susceptible de faire face à l'armée royale. Deuxième moyen mis à disposition de ce parti huguenot, ce sont les renforts venus de l'étranger. Les réformés français ont pu bénéficier de l'appui des princes protestants étrangers, de certains d'entre eux du moins. Ils ont notamment pu bénéficier de l'appui de la reine d'Angleterre, Élisabeth d'Angleterre, qui, pendant la première guerre en 1562, n'a pas hésité à envoyer dans le royaume des troupes régulières. Donc elle a pris le risque d'entrer en guerre contre le roi de France pour aider les réformés français. Alors, la réalité est qu'elle avait une idée derrière la tête, c'était de récupérer Calais. Vous savez que l'Angleterre possédait Calais depuis 1346 et qu'en 1558, la France avait récupéré Calais contre l'Angleterre et que Calais avait été ensuite, en 1559, définitivement attribué à la France par le traité du Cateau-Cambrésis. Donc l'idée, c'est tout simplement de pénétrer dans le royaume de France, d'aider les réformés à remporter la victoire, et puis ensuite de n'accepter de quitter le royaume de France qu'en échange de Calais. Bon, voilà, donc elle y trouvait son compte. Enfin, elle aidait quand même, visiblement, les réformés français par un envoi de troupes qui est resté modeste. Surtout, l'aide des princes protestants étrangers, c'est celle des princes allemands. Les princes protestants allemands, qui sont luthériens. Alors, il faut bien penser que pour les luthériens, les calvinistes sont presque aussi hérétiques que ne le sont les catholiques. Hein. Donc, il y a là un véritable antagonisme doctrinal entre luthériens et calvinistes au XVIe siècle, mais il y a des princes luthériens de l'Empire qui sont moins hostiles que d'autres aux calvinistes français. Et surtout, il y en a qui sont beaucoup plus sensibles à une sorte de solidarité évangélique, c'est-à-dire entre confessions qui ont vu la vérité de l'Évangile, même si, à un moment donné, elles ont divergé dans l'interprétation théologique. Ces princes protestants, il y en a, on va dire, quatre princes protestants allemands qui jouent un rôle éminent dans l'aide apportée aux réformés français. C'est le landgrave de Hesse, le comte palatin du Rhin, qui est aussi électeur du Saint-Empire, le duc de Württemberg, et enfin le duc de Deux-Ponts. Ces quatre princes, pendant les trois premières guerres de religion, apportent très régulièrement un secours militaire et financier aux réformés français. Un secours militaire, non pas en entrant la plupart du temps à la tête d'une armée régulière en France, parce que c'est déclarer la guerre au roi de France, c'est extrêmement dangereux, mais en permettant aux réformés français de lever sur leurs terres des mercenaires. Et les troupes étrangères soldées en Allemagne par les protestants français sont des reîtres, des cavaliers ou des lansquenets, des fantassins. Et donc, lors de chaque guerre civile, on voit entrer dans le royaume de France des troupes allemandes. Ces troupes allemandes peuvent représenter un effectif tout à fait considérable. Pendant la troisième guerre civile, en 1569, ce sont 15 000 hommes qui rentrent dans le royaume sous le commandement du duc de Deux-Ponts. Donc c'est une aide tout à fait considérable. Et d'ailleurs, cette aide permettra aux réformés français qui avaient accumulé les défaites pendant cette troisième guerre civile, notamment lors de la bataille de Jarnac ou de la bataille de Moncontour, eh bien, ça leur permettra de reconstituer leurs troupes pour continuer le combat. Donc c'est un appui tout à fait considérable. Bien évidemment, aussi bien les troupes levées par la noblesse que ces troupes étrangères, il faut les solder, donc il faut de l'argent. Et la troisième source, le troisième moyen qui est mis au service de ce parti huguenot, ce sont des ressources financières. Ces ressources financières, contrairement au roi qui peut lever des impôts réguliers, les réformés français, eux, doivent les trouver dans des expédients. Et donc, lors de toutes ces guerres, on a recours à des expédients qui sont, bien évidemment, en premier lieu, la confiscation des richesses de l'Église catholique. Paradoxalement, de manière un peu ironique, ce qui a financé la première guerre civile pour les réformés français, ce sont les richesses de l'Église, puisqu'on a fait fondre les reliquaires, on a fait fondre les objets du culte dans tous les endroits où les réformés français avaient pris le pouvoir. Eh bien, ils se sont précipités dans les églises et ils ont confisqué ces biens. C'est bien de l'Église catholique. On les fait fondre et avec, eh bien, on fait de la monnaie. Donc il y a des ateliers monétaires qui vont battre monnaie et qui, sur la base de ces métaux précieux, vont frapper des écus en or et en argent. Et puis, on ne se contente pas dans les églises de faire fondre les reliquaires, on fait fondre les cloches aussi, parce qu'avec les cloches, on fait des boulets de canon. Donc vous voyez, les cloches en bronze, on fait des canons et des boulets de canon. Donc tout est bon. Donc les richesses de l'Église catholique, première source de financement. Il y a également la confiscation des deniers royaux. Dans tous les espaces que les réformés français contrôlent, ils confisquent les impôts perçus pour le roi. C'est-à-dire que toutes les ressources fiscales de la monarchie sont détournées et sont utilisées au service de la cause réformée. Et ça représente aussi, bien évidemment, une source importante de financement. Autre moyen, l'emprunt. Partout où les réformés sont les maîtres, ils lèvent des emprunts non seulement sur les réformés du lieu, mais aussi sur les catholiques, qui sont même souvent doublement taxés. Ces emprunts sont volontaires ou sont forcés. On connaît des cas d'emprunts forcés, comment procède-t-on? Eh bien, par exemple, en Dauphiné, le baron des Adrets, qui est réputé pour n'être pas un personnage extrêmement affable, lorsqu'il arrive devant une ville, il lance un ultimatum, il dit « c'est très simple, soit vous me livrez une rançon de 5000 livres, soit je rentre et je tue tout le monde. » Bon, ben c'est très simple, très rapidement, la ville paye. Donc ça permet de faire rentrer de l'argent. Et puis il y a aussi des emprunts à l'étranger. Les protestants allemands ne font pas seulement que d'envoyer des troupes, de favoriser la levée des troupes, mais également ils envoient de l'argent. Ils envoient de l'argent qui permet de solder ces troupes. Et on recense ainsi un certain nombre de prêts qu'ils ont consenti, qui ne sont pas des dons, parce que les réformés, les protestants allemands ne sont pas des philanthropes, hein, ce sont des prêts, mais bon, bien souvent, ils ne leur seront jamais remboursés. Parce que, bien sûr, les réformés n'auront jamais les moyens de trouver les sommes nécessaires. Autre moyen de financement, la mise à rançon. On enlève un personnage important, un noble important, parfois un évêque même, et on ne le rend qu'en échange d'une rançon. Autre moyen de financement. Il y a aussi les contributions volontaires des églises réformées. On pourrait penser que c'est la principale source de financement du parti Huguenot, mais pas du tout. D'abord, les églises sont pauvres, et ensuite, quand elles ont de l'argent, elles préfèrent les garder pour se mettre elles-mêmes en défense. Donc, pas de grands revenus. Et enfin, au cours de la troisième guerre de religion, il y a un nouveau moyen de financement qui est la guerre de course. Henri de Navarre est aussi amiral de Guyenne, et il met à profit cette fonction pour financer des corsaires qui vont arraisonner des navires catholiques au large de la Guyenne, donc dans l'océan Atlantique, et même au large de l'Angleterre. Et donc ici, on a tout un système qui se met en place avec une flotte de corsaires huguenots qui confisque des cargaisons et même des navires au profit de la cause réformée. Alors, il y a un contrat qui est conclu à chaque fois. 80% de la prise va à l'armateur et au capitaine et 20% va à la cause huguenote. Et ça, ça permet bien évidemment de faire entrer aussi de l'argent. Donc vous voyez, il y a un véritable empirisme dans ce financement. On ne peut pas dire que le système soit bien huilé. On fait un peu comme on peut avec les moyens du bord. Et bien sûr, ça limite considérablement le potentiel de ce parti huguenot, puisqu'il ne peut pas lever des troupes aussi nombreuses et aussi performantes qu'il le souhaiterait. Alors pour améliorer la gestion des ressources financières relativement maigres du parti huguenot, que fait-on? Eh bien, dans certaines provinces du royaume, les provinces les plus fortement touchées par la réforme, on crée des institutions politiques, un véritable système politique. C'est en Languedoc que ce système politique naît à la fin de la Première Guerre civile, en décembre 1562. En quoi consiste-t-il? Il s'agit de la réunion d'assemblées politiques. Des assemblées politiques qui sont en fait la confessionnalisation, la version confessionnalisée des États provinciaux. Vous savez qu'il y a, dans le Royaume de France, certaines provinces où il n'y a plus d'États provinciaux, d'autres où ces États provinciaux ont subsisté. Le rôle des États provinciaux, il était très simple, c'était de consentir l'impôt voulu par le roi, d'en organiser la répartition et la perception. Et donc, en détournant ce système qui était politique mais qui avait des visées essentiellement financières, les réformés français pensent pouvoir accroître à la fois l'efficacité de leur mise en défense, mais aussi leur faculté à percevoir des revenus. Ces assemblées politiques donc, se réunissent d'abord fin 1562, puis ensuite elles interrompent leurs réunions à chaque période de paix et se réunissent à nouveau à chaque fois que la guerre civile reprend. Elles sont relativement efficaces, elles réussissent à lever des impositions qui sont assez soigneusement réparties par ces assemblées. Elles réussissent aussi à lever des troupes et enfin à faire redresser des fortifications qui étaient relativement mal en point. Elles concernent le Languedoc et le Dauphiné pendant la première guerre civile, mais à partir de la deuxième, elles ne concernent plus que le Languedoc, le Haut-Languedoc, avec notamment des assemblées qui se réunissent autour de Castres, puisque le Haut-Languedoc, lui, est beaucoup plus minoritairement réformé que le Bas-Languedoc, et le Bas-Languedoc avec des assemblées politiques qui se réunissent à Nîmes, à Montpellier, à Anduze aussi, hein, on en a qui se sont réunis à Anduze, et qui permettent donc la mise en défense de la province. Alors, elles n'ont pas simplement un impact provincial, puisque les chefs du parti huguenot, c'est-à-dire le prince de Condé, le roi de Navarre, font appel à ces assemblées provinciales pour contribuer à leur apporter des fonds afin d'entretenir l'armée, ce qu'on appelle l'armée des princes, hein, c'est-à-dire l'armée du parti huguenot, puisqu'on distingue toujours deux forces militaires à chaque étape du combat. Il y a l'armée dirigée par le prince de Condé, le roi de Navarre et les grands personnages de la noblesse huguenote, et puis il y a bien sûr des forces militaires qui restent localement implantées dans les provinces pour défendre les églises. Donc, ces assemblées politiques, elles avaient vocation initialement à ne défendre que les églises locales, mais elles finissent par aussi contribuer à la cause réformée à l'échelle du royaume. Et puis il y a, durant cette période, une tentative de création d'un système confédéral. C'est la première tentative. Elle va échouer parce que, très rapidement, les réformés français ne domineront plus que le Languedoc. Mais l'ambition était de créer un système confédéral d'assemblées politiques qui devait concerner le Dauphiné, le Languedoc et le Lyonnais. C'est un embryon de tentative qui sera repris après la Saint-Barthélemy. Alors, quels sont les résultats de l'action conduite par le parti huguenot? Est-ce que ce parti, cette structuration que je viens d'évoquer, est-ce que les différents atouts dont il disposait lui ont permis de remporter les succès pour lesquels il avait été conçu? Est-ce qu'il a permis la conversion du royaume? Bon, vous savez évidemment que non, hein, parce que si c'était le cas, on serait au courant. Ce parti huguenot va de déception en déception. Et toute la période qui commence en 1562 et qui va jusqu'en 1572, jusqu'à la Saint-Barthélemy, est en fait une lente désillusion. La perspective d'une France huguenote, qui avait véritablement été envisagée par Calvin et par les pasteurs, ne cesse de s'affaiblir. Pourquoi ? D'abord parce que, lorsque les réformés français ont pris les armes lors de la Première Guerre civile, ils les ont pris dans un esprit offensif. Lorsque le prince de Condé prend les armes en avril 1562, il ne les prend pas pour se défendre. Il les prend pour passer à l'attaque. Ce qu'il veut, c'est vaincre. Et grâce à la victoire qu'il entend remporter, il veut montrer au roi la puissance de la réforme française et il veut ainsi pousser le roi non seulement à rétablir l'édit de janvier qui a été brisé et donc à octroyer aux réformés français une existence légale, mais il veut aussi le convaincre d'entraîner la France dans la réforme. Or, cette première guerre civile, si elle n'est pas véritablement une défaite pour les réformés français, elle est au mieux un match nul. La bataille de Dreux est perdue par le prince de Condé, d'ailleurs il est fait prisonnier, mais en contrepartie les réformés français font prisonnier Montmorency, donc une sorte de match nul, il y a des négociations qui aboutissent à la paix d'Amboise, et cette paix d'Amboise, qui est le premier édit de pacification qui met un terme aux guerres de religion, il est encore moins favorable que l'édit de janvier. Donc en fait là, après cette première guerre civile, les plus pragmatiques au sein du parti huguenot, et notamment les membres de la noblesse, comprennent qu'en fait, la victoire n'est pas possible. Ils comprennent que cette victoire est une illusion, une utopie, et qu'en fait, ce qu'on peut espérer au mieux, c'est tout simplement l'octroi par la monarchie d'un statut légal au sein du royaume, et finalement, l'établissement d'une coexistence pacifique entre les réformés et les catholiques. Mais tout le monde n'est pas aussi lucide. Il y a au sein du parti huguenot des personnages qui, eux, persistent à vouloir croire à cette victoire. Et ce sont surtout les pasteurs. Les pasteurs, eux, pensent que rien n'est perdu. Et il y a un élément en particulier qui les fait espérer, c'est Charles IX. Charles IX, vous le savez, est devenu roi de France alors qu'il avait 10 ans. Or, les réformés français se vivent un petit peu comme le nouveau peuple élu, et ils pensent qu'ils vivent à des siècles de distance la même histoire que celle qu'ont vécu les Hébreux. Et donc ils interprètent constamment leur histoire à l'aune de cette analogie biblique. Ils cherchent un prince qui pourrait, à l'image des princes de l'Ancien Testament, des bons princes de l'Ancien Testament, des bons rois de l'Ancien Testament, les guider vers la victoire. Or, parmi leurs modèles, il en est un qui est particulièrement populaire, c'est Josias. Et Josias est monté sur le trône de Juda alors qu'il avait 9 ans. Et bien évidemment, l'avènement de Charles IX alors qu'il a 10 ans les conduit à imaginer qu'il s'agit d'un nouveau Josias. Et chez les pasteurs et bien d'autres, cette conviction leur permet d'entretenir l'illusion d'une victoire, malgré l'édit d'Amboise qui est peu favorable. Malheureusement pour eux, les deuxième et troisième guerres civiles infirment leurs espoirs, elles sont très défavorables. Alors la deuxième guerre est encore une sorte de match nul, donc n'a pas beaucoup d'impact, mais la troisième guerre est assez désastreuse à cause des défaites militaires que j'ai évoquées, à cause de la disparition d'un certain nombre de chefs du parti huguenot. Le prince Louis de Condé est tué à Jarnac, mais il ne meurt pas vraiment sur le champ de bataille. Il est abattu d'un coup d'arquebuse alors qu'il est à terre et prisonnier, sans doute, peut-être, on ne sait pas vraiment, sur l'ordre du duc d'Anjou, qui est le frère de Charles IX et qui est le futur Henri III. On aurait pensé un peu à décapiter comme ça le parti huguenot. Donc on voit bien qu'il y a entre la monarchie et le parti huguenot non pas une proximité, mais plutôt un véritable antagonisme. Le François d'Andelot, le frère de Coligny qui s'était converti, lui meurt empoisonné, également sans doute à l'instigation du parti catholique. Et Catherine de Médicis, lorsqu'elle elle apprend la mort de François d'Andelot, elle se réjouit publiquement. Hein, il y a une lettre dans laquelle elle dit que c'est une sorte de bon débarras finalement que la disparition d'Andelot. Donc on ne peut pas dire qu'il y ait véritablement une vision favorable de la monarchie à l'égard des réformés français. Et puis surtout, Coligny lui-même est condamné à mort par le Parlement de Paris pendant la Troisième Guerre de Religion et son effigie est brûlée en place de grève. Donc il y a un divorce toujours plus important entre le parti huguenot et la monarchie française. Donc les relations entre les réformés français et la monarchie ne cessent de se tendre. Hein, et elles ne laissent pas du tout augurer une conversion du roi. La paix de Saint-Germain, qui met un terme à la troisième guerre de religion en 1570, certes comporte une amnistie. Et comme toutes les paix de religion, elle précise que tous les crimes passés sont oubliés, que toutes les condamnations sont annulées et que chacun est rétabli dans ses droits et honneurs. Mais pour autant, les différentes guerres ont laissé des traces entre le roi et ses sujets réformés. Presque plus personne n'espère alors une conversion du royaume. Mais enfin, dans quelques esprits un peu moins éclairés, il reste toujours une petite lueur d'espoir. Et pendant la période qui sépare 1570 et 1572, la paix de Saint-Germain de la Saint-Barthélemy, on voit encore dans quelques écrits réformés, de moins en moins nombreux, mais quand même ils existent, l'expression de cet espoir peut-être d'une conversion encore possible du royaume, peut-être une illumination subite du roi qui n'avait pas aperçu la vérité de l'Évangile. Et puis on a aussi une rhétorique qui consiste à dire, ben voilà, le roi, s'il était libre, il se convertirait. Mais il n'est pas libre de le faire parce qu'il est entouré de catholiques, de mauvais conseillers qui le retiennent prisonnier, qui l'empêchent d'exprimer sa véritable intention. Bien sûr, c'est une fiction politique que cette fiction du roi prisonnier, mais elle permet de conforter les plus optimistes dans l'idée que tout reste possible. Le massacre de la Saint-Barthélemy, en 1572, met un terme à cette illusion, met un terme à cette dernière vision utopique qui était conservée par certains. Alors ce massacre de la Saint-Barthélemy, vous le connaissez, je vous en rappelle un petit peu les traits saillants. Vous savez que pour rétablir la paix dans le royaume, pour consolider la paix dans le royaume, Catherine de Médicis avait eu l'idée d'un mariage. Un mariage qui devait unir sa fille, Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, donc catholique, et le chef du parti protestant, le chef du parti huguenot, Henri de Navarre, le futur Henri IV. L'idée, c'était qu'en mariant ces deux personnages emblématiques des deux partis, on allait consolider la paix. Et puis Catherine de Médicis se disait, ben voilà, Henri de Navarre va venir vivre à la cour, et forcément, petit à petit, il va finir par se convertir au catholicisme, et puis un jour, il entraînera avec lui les réformés, et la paix sera définitivement rétablie. Certes, c'était utopique, aussi du côté de Catherine de Médicis, mais c'était son idée. Elle a eu du mal à faire passer cette idée auprès de Jeanne d'Albret, la mère d'Henri de Navarre, mais elle a fini par la convaincre, et donc le mariage a lieu le 18 août 1572. Pour cette occasion, toute la noblesse réformée française est à Paris, les membres les plus éminents de la noblesse sont présents, et tout semble bien se passer. Le 22 août, Gaspard de Coligny est victime d'un attentat. Il reçoit un tir d'arquebuse dans le bras. Alors, de toute évidence, on voulait le tuer. Hein. Donc, il ne meurt pas. Il est seulement blessé. Le roi Charles IX vient le voir, l'assure de son soutien, l'invite même au Louvre. Coligny est ramené à son logis. Et de manière tout à fait curieuse, moins de 36 heures plus tard, le roi ordonne l'exécution de Coligny et des principaux chefs protestants. Alors, la légende noire qui a été perpétuée d'abord par Michelet, puis par Alexandre Dumas, et qui a survécu presque jusqu'à nos jours, a souvent voulu dire que Catherine de Médicis, en bonne Florentine, avait médité de longue date le massacre des chefs protestants, les avait attirés à Paris sous prétexte du mariage, et s'était arrangé pour que son fils Charles IX ordonne leur exécution. Bon, aujourd'hui, il y a de nombreuses études sérieuses qui montrent qu'il n'en est rien, hein, et que les choses sont tout à fait différentes. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que lorsque Coligny a été blessé, les Guises ont été soupçonnés d'être les commanditaires de l'assassinat, la tentative d'assassinat, et on sait aujourd'hui qu'en effet, c'était Maurevers, leur tueur à gages attitré, qui a tiré le coup d'arquebuse, hein, donc c'est la vérité. Et ils sont allés demander justice au roi, et en demandant justice à Charles IX, ils sont arrivés à la cour bruyamment, ont exigé que les coupables soient punis, et ont clairement dit, si vous ne les punissez pas vous, nous les punirons nous-mêmes. Et donc forcément, le roi a craint une sédition, en plein Paris, tout proche du Louvre, et pour se prémunir contre une sédition huguenote, il a ordonné l'exécution des chefs militaires. Et c'est ce que les sources aujourd'hui nous révèlent quant à la réalité du massacre de la Saint-Barthélemy. Après le massacre plus vaste qui a eu lieu, lui, et le fait d'un emballement de la population de Paris, qui voyant les soldats du roi tuer les chefs huguenots, se sont dit « ça y est, le roi a vu la vérité, il veut exterminer l'hérésie ». Et donc il y a eu un emballement populaire incontrôlable que Charles IX a essayé de freiner, mais qu'il n'a pas réussi à freiner. Mais ça n'a rien à voir avec la décision politique qui a été prise d'éliminer un nombre limité de chefs protestants. Toujours est-il que, en éliminant les chefs huguenots, et en reconnaissant sa décision par une déclaration royale qu'il publie deux jours après en disant « j'ai pris la décision d'éliminer les chefs protestants parce qu'ils étaient séditieux », en prenant cette décision, eh bien, Charles IX s'est définitivement coupé de ses sujets huguenots et surtout, il a brisé de manière absolument définitive les espoirs des derniers utopistes qui pensaient que peut-être la conversion du roi et du royaume était possible. Et donc ici, on arrive au terme de l'évolution qui montre qu'en fait, le parti huguenot n'a pas du tout été un instrument de victoire. Il a voulu l'être, il ne l'a pas été. Il s'est mué progressivement au fil des guerres que j'ai évoquées et encore plus à partir de 1572, il s'est mué en un moyen d'assurer la survie des réformés français. Et c'est ce qu'il va faire tout au long de la période ultérieure jusqu'à la signature de l'édit de Nantes. À partir de là, clairement, les ambitions des réformés français ne peuvent plus être de convertir le royaume, mais simplement d'essayer d'obtenir du roi l'octroi d'un statut légal et l'octroi de l'autorisation de vivre pacifiquement dans le royaume de France aux côtés des catholiques. Et ça, c'est l'histoire de la deuxième phase du parti huguenot. Je vous remercie.
Merci Guido aussi pour cette très belle démonstration systématique de la désillusion, la défaite de ce parti huguenot qui a voulu monter à l'assaut du pouvoir et qui se retrouve donc dans un échec total avec cette Saint-Barthélemy qui a fait couler beaucoup d'encre. Je suppose qu'il y a évidemment des questions, des remarques autour de votre exposé, de votre conférence. J'en ai peut-être une avant de laisser la parole au public. Est-ce qu'on peut dire que le parti huguenot et donc cette politisation de la noblesse voulue par Calvin, vous l'avez très bien expliqué, relayée par les pasteurs, est-ce que ça serait excessif de dire que cette politisation des huguenots et cette constitution en partie qui est à l'origine des guerres de religion? Autrement posé, est-ce qu'il n'y aurait pas, s'il n'y avait pas eu de politisation du mouvement huguenot, Autrement dit, si on avait laissé la noblesse de côté, si ce mouvement huguenot était resté un mouvement populaire, qui n'avait pas eu cette volonté d'accès au pouvoir, est-ce qu'on peut dire, alors bon, on ne peut pas faire l'histoire avec des scies, hein, je suis bien d'accord, mais est-ce qu'on aurait pu éviter ces guerres de religion qui s'emballent à partir de l'année 1562?
Oui, alors il est évident que s'il n'y avait pas eu de puissance militaire huguenote, il n'y aurait pas eu de guerre de religion. Ça, c'est sûr. Hein. Donc si la minorité réformée était restée une minorité dépourvue de puissance politique et militaire, il ne fait guère de doute que petit à petit, les persécutions en seraient venues à bout, hein, et que donc elle aurait peut-être survécu de manière clandestine comme elle l'était au départ, mais il n'y aurait pas eu cet affrontement. Hein, c'est effectivement la politisation du mouvement réformé qui lui a donné une puissance militaire et qui lui a permis de lutter. Tout à fait.
Ouais. Oui.
Alors, il y a un micro, je crois.
J'ai une question par rapport à la position de Calvin. Est-ce que sa position a évolué dans le temps?
Recule le micro, là.
Alors en fait, l'espoir de conversion du royaume, il l'a toujours espéré. Hein. L'attente d'un nouveau David, d'un nouveau Josias, ça, c'est pas seulement propre à Calvin, hein, c'est l'ensemble des réformés qui l'espèrent, si vous voulez, et ils cherchent effectivement un prince qui pourrait être celui-ci. Alors, avec Henri II, ils n'avaient pas beaucoup de chance, hein, parce que Henri II était très farouchement catholique et opposé à la réforme. C'est pour ça que leur espoir s'est accru par la suite. Bon. Ils ont cherché des alternatives. Ils pensaient peut-être qu'Antoine de Bourbon, qui était le premier prince du sang, pourrait peut-être jouer ce rôle en période de minorité royale, puisque Charles IX était mineur. Il fallait un régent ou une régente. Or, si vous voulez, les réformés français défendaient l'idée que ce n'était pas la mère du roi qui devait être régente, mais que c'était le premier prince du sang qui devait être lieutenant général du royaume. Et c'est pour ça qu'ils ont essayé de convertir Antoine de Bourbon pour qu'il soit ce lieutenant général du royaume et qu'il oriente ensuite la politique de Charles IX. Donc, d'emblée, il y a ce souhait. Mais au départ, en fait, Calvin, lui, il espère que ça va se faire tout seul, si je puis dire. C'est-à-dire que l'idée de Calvin, c'est que la lumière de la vérité ne peut qu'éblouir les consciences. Hein, et que donc, en faisant connaître l'Évangile, eh bien, les gens vont se convertir. C'est sa conviction profonde. Et c'est la conviction des pasteurs. Et il est en quelque sorte déçu initialement, de voir que ça ne se produit pas comme ça, que la lumière de l'Évangile ne suffit pas. Et c'est pour ça que la politisation est une deuxième étape dans le processus de conquête du royaume, c'est-à-dire que là, oui, il agit par pragmatisme. Il pense toujours que la lumière de l'Évangile va se manifester, mais il se dit qu'il faut la montrer de plus près au roi. Et donc, en convertissant la noblesse, ben, il la verra mieux. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est vraiment du pragmatisme ici. Alors, Calvin, il est mort en 1564, donc lui, quand il est mort, j'allais dire, l'espoir n'était pas tout à fait éteint. Voilà. C'est Théodore de Bèze, ensuite, qui lui a succédé, qui a bien été contraint d'envisager la réorientation plus pragmatique des objectifs à atteindre.
Oui.
Vous nous avez parlé de la noblesse qui avait été en partie touchée par la réforme. Est-ce que vous pourrez avoir une idée de, pas de pourcentage, mais de proportion? Et puis je pense qu'il n'y a pas que la noblesse aussi. C'était peut-être moins perceptible.
Alors, pour la proportion, ça varie selon les provinces et même selon les bailliages à l'intérieur des provinces. On va dire qu'en moyenne, il y a entre 10 et 15% de la noblesse qui s'est convertie. Mais dans certaines zones, on est allé jusqu'à 40%. Donc, si vous voulez, c'est très inégal. C'est très inégal. On a beaucoup de mal à faire des statistiques parce que, bien évidemment, On ne sait pas toujours que quelqu'un s'est converti. Hein, ils ne font pas souvent une déclaration publique. Hein, voilà. Donc on arrive à savoir qu'un tel ou un tel était converti ou non, mais on n'a pas de statistiques générales. On a une estimation. Voilà. Donc on sait qu'il y a eu, à l'apogée du développement de la réforme en France, on avait en 1562, c'est le pic du développement des églises, on a environ 10% de la population du royaume qui est convertie à la réforme. Si on considère qu'il y avait entre 16 et 20 millions d'habitants en France, il y avait donc entre 1,6 et 2 millions de réformés en France en 1562. Le pourcentage de nobles convertis est supérieur au pourcentage moyen de conversion, est supérieur à 10%. Voilà. Mais bien évidemment, il y a tout un tas d'autres gens qui sont convertis. Vous savez, la noblesse en France, ça représente 1,5% de la population. Voilà. 98%, c'est le tiers-État. Et effectivement, dans les villes, dans la bourgeoisie des villes, dans les milieux marchands, dans les milieux de justice, au sein des professions juridiques, etc., il y a toute une élite qui s'est convertie aussi. Absolument.
Est-ce que vous pouvez expliquer en un mot ce que ça veut dire la conversion d'un noble ? Est-ce que quand un noble se convertit, c'est un individu qui se convertit ou est-ce que ça a d'autres implications ?
Alors, tous les cas sont possibles. Vous savez qu'il y a des familles nobles dans lesquelles vous avez un frère qui est catholique et un frère qui est protestant. Vous avez des couples dans lesquels l'homme est catholique, la femme est réformée. Et vous avez des... ces couples ont des enfants et parfois, il y a une fille qui va être de tendance réformée, un fils qui va être catholique. Hein, donc, il y a une bigarrure confessionnelle très très importante. Et d'ailleurs, ça a créé de très nombreux drames à l'époque des guerres de religion. Maintenant, lorsque toute une lignée se convertit, et ça arrive, hein, c'est-à-dire que le père, la mère, les enfants se convertissent, à ce moment-là, ça a des conséquences parce que lorsque la famille est puissante, bien souvent, leurs dépendants se convertissent aussi. Vous avez des nobles puissants qui ont ce qu'on appelle des réseaux de clientèle, qui sont des clientèles locales, et qui, lorsque leur patron, entre guillemets, c'est le terme qu'on emploie, se convertit, eh bien, ils suivent. Alors, ils suivent soit parce qu'eux aussi sont touchés pour des raisons spirituelles, ou ils suivent pour des raisons d'intérêt, parce que, bien évidemment, il ne faut pas qu'ils perdent la protection du noble éminent dans la clientèle duquel ils se trouvent. Voilà. Donc là, il y a tous les cas de figure. Ça peut n'avoir aucune incidence, tout comme ça peut entraîner la conversion de zones entières, hein, de nobles dans des étendues géographiques plus ou moins importantes. En Picardie, par exemple, pourquoi il y a beaucoup de protestants, pourquoi il y a beaucoup de réformés en 1562? Eh bien, tout simplement parce que le prince de Condé était gouverneur de Picardie. Et ça a eu une incidence sur les conversions.
Merci. J'ai deux questions complètement différentes. L'échec des édits de paix, quand on les lit, on peut regretter qu'ils n'aient pas été appliqués, parce qu'on voit qu'il y avait un esprit de tolérance et de désir de vivre ensemble. Alors, est-ce qu'ils étaient trop en avance pour les mentalités? C'est ma première question. Parce qu'après tant de haine, arriver à rédiger comme les dit l'envoie, et la deuxième question, payer les coupes sur par le moyen du pillage, est-ce que ça a lieu? Parce que je l'ai lu, me semble, pour rappeler, peut-être dans les autres guerres de religion, puisque vous ne l'avez pas mentionné comme moyen de payer les coupes quand on n'a plus d'argent.
Merci. Alors, en ce qui concerne les édits de pacification, il ne faut pas se méprendre sur ce que sont ces édits. Un édit de pacification, c'est une mesure qui est prise par le roi parce qu'il n'a pas le choix. Il faut bien penser que le mot tolérance au XVIe siècle n'a pas le sens qu'on lui accorde aujourd'hui. Tolérer au XVIe siècle, ça veut dire supporter ce qu'on ne peut éviter. Son synonyme, c'est souffrir. On souffre ce qui est inévitable. Hein? On n'envisage pas la tolérance comme l'acceptation de la différence. On envisage la tolérance comme une situation qui est moins pire que la guerre. Voilà, ça c'est la première chose. Ces édits, ils sont pris par le roi parce qu'il doit rétablir son autorité. Et donc pour rétablir son autorité, il faut que les guerres cessent. Et pour que les guerres cessent, il faut qu'il ordonne ce qu'on appelle l'oubli. Et donc ces édits de pacification ordonnent l'oubli, un oubli qui doit être celui du conflit qui vous oppose à votre voisin. Parce que pendant ces guerres de religion, parfois on s'étripe entre voisins. On s'entendait très bien, et puis tout d'un coup la guerre commence, et là on s'entretue. Donc il faut tout oublier. Et notamment, il faut oublier les exactions commises par les uns et les autres. Et les mesures qui sont prises d'amnistie dans ces édits ont tout simplement pour fonction d'apaiser la colère des nobles protestants qui ne peuvent pas rester condamnés. Et donc, si on veut qu'ils posent les armes, eh bien, il faut leur rendre leur charge, leur fonction, etc. Donc, ce sont des textes qui, quand on les lit, ont plein de bonnes intentions et qui, notamment, introduisent la liberté de conscience totale et une liberté de culte limitée. Mais ce sont des édits qui étaient considérés de toute façon comme provisoires. Et il faut bien savoir que même l'édit de Nantes a été considéré par le roi comme provisoire. C'est écrit dans le préambule. Donc, si vous voulez, ici, on n'a pas véritablement d'établissement de tolérance. Une raison qui fait que ces édits ne sont pas appliqués ou mal appliqués, c'est que les parlements, qui sont chargés de les enregistrer pour les faire appliquer, parce que les édits ne peuvent être appliqués en France que quand ils ont été enregistrés par le Parlement, c'est-à-dire inscrits sur le registre des lois. Or, pour enregistrer un édit, il faut que le Parlement vote cet enregistrement, et les parlements étaient peuplés de catholiques souvent très intransigeants, qui n'enregistraient parfois que sous la menace du roi. Et ensuite, encore fallait-il que les officiers royaux ordonnent réellement l'application de l'édit, ce qui était rarement le cas. Et puis, il y avait dans les édits des mesures favorables aux catholiques, comme la restitution par les protestants aux catholiques de tous les lieux de culte qu'ils avaient confisqués, et les protestants n'appliquaient pas davantage l'édit que les catholiques. Ils refusaient dans les lieux de culte. Donc, si vous voulez, tout ça faisait que les édits étaient partiellement, mal, ou pour certains, pas du tout appliqués. Hein, donc ça, c'est pour la réponse à votre première question. La deuxième, c'était déjà...
Sur le pillage.
Sur le pillage, oui. Le pillage, oui, bien sûr, il y a eu du pillage. Dès que les troupes protestantes prenaient possession d'une ville catholique, eh bien, on pillait tout ce qui pouvait être pillé. Hein, donc ça, c'est... Vous savez, le pillage n'est l'apanage ni des catholiques ni des protestants. Ils ont pillé et tué autant les uns que les autres. Voilà, ça, je crois qu'il faut en avoir bien conscience.
À défaut de conversion du royaume, rien ne permettait d'imaginer une sorte de cuius regio, par exemple Languedoc, Picardie, Dauphiné, protestant.
Ben, si vous voulez, c'était totalement impossible. Alors, c'est vrai que c'est une solution qui était suggérée par les princes allemands. Les princes allemands qui vivaient dans l'Empire, qui est, vous savez, le Saint-Empire, c'est un agglomérat d'environ 400 États souverains, dont certains ne sont pas plus grands qu'Alès. Hein, donc forcément, pour eux, ça leur semblait jouable. Mais en fait, dans le Royaume de France, c'était impossible, puisque ça aurait supposé que chaque province devienne autonome, et donc se soustrait à l'autorité du roi, ce qui était totalement impensable. Le royaume de France aurait éclaté. C'était totalement impossible. On ne pouvait pas envisager cette solution-là, aussi parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, parfois dans la même famille, on trouve un catholique et un protestant. Or, le principe cuius regio eius religio, il faut entendre regio ici dans son acception géographique, c'est-à-dire dans la région, l'État en l'occurrence, voulait que lorsqu'on habitait une région protestante, tout le monde était protestant dedans, et catholique, tout le monde était catholique. Et ça impliquait dans l'Empire ce qu'on appelait le jus migrandi, c'est-à-dire le droit d'émigrer. Si on était catholique sur le territoire de l'électeur palatin, eh ben on n'avait qu'un choix, c'était de partir habiter ailleurs, par exemple dans le royaume de Bavière, qui était catholique. Voilà, ce n'était pas possible dans le royaume de France. Donc ça a été un rêve de certains, mais c'était impraticable.
Dernière question.
Alors, ce n'est pas totalement que ça n'existe pas. Si vous voulez, pendant la première moitié du XVIe siècle, il y a toute une frange de la population qui n'est pas catholique romaine de manière extrêmement rigide et qui n'est pas convertie à la Réforme. On les appelle les évangéliques. Pourquoi ? Parce que ce sont les héritiers de l'humanisme chrétien qui avait été promu par Erasme. Donc, ce courant existe. Ce courant s'étiole parce que la fixation confessionnelle s'accroît, et donc, si vous voulez, les conflits se multipliant, et bien finalement, il faut choisir son camp. Donc, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, cette espèce de frange humaniste chrétienne, elle a presque disparu. Il y a quelques vestiges de ce courant. Par exemple, le cardinal de Châtillon, Odet de Châtillon, le frère de Coligny et Andelot. Pourquoi est-ce qu'il peut rester cardinal tout en ayant des sympathies pour le parti Huguenot ? Mais parce qu'en fait, c'est un évangélique attardé, si je puis dire. C'est une sorte de but témoin de l'évangélisme. Ce qui existe, en revanche, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, c'est un tiers parti, effectivement, qu'on appelle le parti des politiques. Alors, ce parti des politiques, il n'a pas encore émergé dans la période que j'ai évoquée ici. Il va émerger après. Il va émerger à partir des années 1575-1576. Et que disent les membres de ce parti ? Ils disent tout simplement, écoutez, voilà, les réformés français, on n'arrive pas à les exterminer. De toute façon, on a vu, il y a déjà eu 4 guerres de religion, ils sont toujours là. Donc, on ne va pas s'entretuer. Bon, il faut se résigner à la coexistence. J'ai bien dit se résigner. C'est l'idée de tolérance, celle que je l'ai évoquée tout à l'heure. On ne peut pas les éliminer, mais vivons avec eux. Donc, ce parti des politiques commence par dire ça. Et puis ensuite, lorsque Henri de Navarre devient l'héritier du trône, vous savez qu'on régnait successivement François II, Charles IX, Henri III. Aucun n'a eu d'enfant. Et il y a un dernier frère, un dernier fils de Catherine de Médicis et d'Henri II. C'est François d'Alençon. Or, François d'Alençon, il meurt le 11 juin 1584. Il meurt d'une sorte de tuberculose, il était très malade. Et quand il meurt, c'est Henri de Navarre, premier prince du sang, chef de la maison de Bourbon, qui devient héritier du trône. Là se forme le parti catholique intransigeant, qui est la Ligue, et qui dit un protestant sur le trône de France, jamais. Et en face, bien sûr, il y a le parti protestant qui dit, oh, quelle bonne idée, un protestant sur le trône de France, bien sûr, peut-être qu'on va réussir à convertir le royaume, enfin. Et au milieu, se forme une troisième force, catholiques, des catholiques modérés, qu'on appelle les politiques, et qui vont dire la chose suivante. Certes, il est protestant, mais du point de vue de la loi salique, c'est-à-dire de la loi de succession du trône, il est légitime. Et donc, ici, on va faire passer un principe politique avant la confession, en disant qu'on doit respecter la légitimité monarchique, quelle que soit la confession du prince. Voilà. Et là, on a cette troisième force. On n'est plus tout à fait dans la même optique, mais on est quand même dans une force qui prône la paix. Pas pour des raisons de tolérance, entre guillemets, mais surtout pour des raisons de pragmatisme.
Bien, je vous propose de terminer ici cette rencontre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver dans ce livre Le Parti Huguenot de Hugues d'Aussy, une densité de détails impressionnante, qui commence donc en 1557 et qui se termine, qui se clôture avec le massacre, une belle mise au point sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Je vous rappelle aussi que notre prochaine rencontre ici, ce sera le 29 avril à 18h30. On parlera du pasteur comme figure de pouvoir dans le cadre du cycle Les protestants, les peuples au pouvoir. Par contre, la prochaine rencontre, ce sera le 18 mars avec le président de la Fédération protestante de France à la librairie pour découvrir la Fédération protestante de France et le parcours de François Claveroli. Vous pouvez retrouver tout cela sur le programme ici, des conférences à Alès, des conférences à Cholet, des conférences à Aix, à Metz et ainsi de suite. Et puis la conférence aussi d'inauguration pour la librairie de Paris. Donc n'hésitez pas à vous munir de ce programme. N'hésitez pas à venir aussi consulter les livres d'Hugues d'Aussy, qui sera un plaisir de les signer. Si vous le souhaitez, je vous souhaite à tous un bon retour. Merci pour votre attention. Je vous propose encore de remercier notre conférencier.